Et voici la revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous.
Ça n'est pas tous les jours que l'on assiste au basculement d'une démocratie dans la dictature. C'est pourtant bien, nous dites-vous, ce qui est en train de se passer à Hong Kong depuis le 1er juillet.
Oui, rarement ce basculement n'avait été aussi clair, aussi évident, quasiment du jour au lendemain sur le territoire de Hong Kong. Les libertés politiques se sont recroquevillées, dire ce que l'on pense est devenu dangereux et critiquer les autorités chinoises, une prise de risque bien réelle. Tout ça, on en a déjà parlé ici, en conséquence de cette loi de sécurité nationale qui a été imposée par Pékin le 1er juillet à l'ancienne colonie britannique. Deux semaines plus tard, le climat là-bas a radicalement changé. Les habitants apprennent à se méfier de tout et d'eux-mêmes en premier lieu. C'est justement ce que cherche cette loi liberticide, nous explique ce matin l'éditorialiste Peter Kammerer dans le South China Morning Post. La loi, dit-il, a été conçue d'une telle manière qu'on ne sait pas exactement ce qui constitue une violation et ce qui pourra être réprimé comme tel. On connaît les peines encourues pour l'aspect dissuasif qui pousse chacun à s'auto-censurer, mais on ne sait pas vraiment ce que l'on pourrait bien nous reprocher. Alors, on fait du zèle sans le savoir.
Et c'est ce qui est en train de se passer, par exemple, dans les librairies de Hong Kong.
C'est un reportage débusqué dans le Chronicle Herald publié au Canada. Les éditeurs hongkongais font retirer des boutiques les livres d'écrivains associés au mouvement pro-démocratie de ces dernières années par crainte de la nouvelle loi qui criminalise tout ce qui pourrait se rapporter à de la sédition, voire du terrorisme. La plupart des éditeurs de Hong Kong ont préféré faire eux-mêmes ce choix déchirant de condamner tous les ouvrages qui portaient par exemple les mots « liberté » ou révolution. Tout le monde cherche à éviter les ennuis et se résigne à souffrir en silence, dit l'un de ses éditeurs au reporter du Chronicle Herald. Et c'est exactement ça, cette résignation collective que décrit également Peter Kammerer dans sa chronique du South China Morning Post, la compréhension que la démocratie, pourtant garantie par la loi de sécurité nationale, ne sera jamais rien de plus à l'avenir que ce que Pékin voudra bien mettre derrière ce mot de démocratie, égard à ceux qui tenteront de ne pas être d'accord.
Mais tout de même, Camille, 600 000 Hongkongais ont participé le week-end dernier aux primaires du camp démocrate pour les prochaines législatives, malgré la nouvelle loi de sécurité nationale.
C'est vrai, le site Hong Kong Free Press y a vu, comme nous, un signal fort envoyé par la population du territoire pour dire qu'elle veut encore croire à la possibilité d'élections libres et ouvertes. Mais hier, la chef du gouvernement pro-Pékin, Carrie Lam, a été, on ne peut plus clair. Pour elle, toujours à lire dans le Hong Kong Free Press, la simple volonté de l'opposition pro-démocratie de remporter la majorité au futur Parlement pour y contester les choix faits par Pékin pourrait être considérée comme illégale selon la nouvelle loi sécuritaire dans la catégorie subversion politique. Ne pourraient donc participer aux élections que ceux qui ne remettent rien en cause. Au cœur de la Chine continentale et communiste, c'est une évidence depuis des décennies, mais pour Hong Kong, c'est un renoncement fondamental à toutes les libertés politiques. Ces libertés, regrette à nouveau Peter Kammerer dans le South China Morning Post, elles sont perdues, elles ne reviendront pas sous le régime actuel. Il appelle donc chacun à se concentrer sur sa vie, à se protéger, soi et les siens, à prendre l'habitude de ne pas dire ce que l'on pense en public, à se méfier des réseaux sociaux comme de tous les moyens de communication. Il faudra inventer de nouveaux moyens de défendre nos droits bafoués, écrit Kammerer. Mais en attendant, il faut savoir se rouler en boule, faire le dos rond. Le journaliste fait d'ailleurs ici une comparaison avec la lutte contre la pandémie qui nous oblige à renoncer à certaines libertés pour préserver notre intégrité physique et collective. Hong Kong serait donc, selon cette comparaison, entrée dans une sorte de confinement, d'hibernation démocratique et elle pourrait durer très très longtemps.
Aux États-Unis, Camille Magnard, c'est la conception même de la notion d'état de droit par Donald Trump qui pose question.
Remarquez que ce n'est plus tant une question qu'une affirmation même dans l'édito du San Francisco Chronicle ce matin. Donald Trump fait preuve d'un mépris absolu de l'état de droit, dénonce le quotidien californien, après que le président a décidé, seul en fin de semaine dernière, d'accorder sa clémence à son ancien conseiller de l'ombre, Roger Stone, au moment où celui-ci devait démarrer 40 mois d'une peine de prison ferme. Roger Stone, qui depuis l'époque du Watergate aime à se définir lui-même comme l'homme des mauvais coups et des basses besognes au sein du Parti républicain a été condamné à l'automne dernier dans le cadre de l'enquête russe du procureur Robert Mueller pour avoir menti face à la commission d'enquête du Congrès américain et avoir fait pression sur des témoins clés pour protéger le président, nous rappelle Paul Waldman dans le Washington Post. Et ça avait marché puisque, en faisant le sacrifice de sa personne, en quelque sorte, Roger Stone avait sauvé la peau de Donald Trump qui avait échappé à l'impeachment. On est là très précisément, note encore Paul Waldman, dans les schémas que l'on retrouve dans tous les films de mafieux américains, à commencer par Les Affranchis, film où Martin Scorsese faisait dire au personnage incarné par Robert De Niro ce principe de base de tout lieutenant loyal au grand parrain, ne jamais balancer ses amis, toujours garder la bouche fermée. C'est le contrat pour espérer ensuite que les réseaux et les bonnes grâces du patron vous sortiront au plus vite de prison. Roger Stone, lui, n'y sera même pas entré en prison. Donald Trump a décidé de commuer sa peine à minima en 2 années de liberté conditionnelle. Et il est intéressant de noter que selon le New York Times, toute son équipe juridique à la Maison-Blanche et même son ministre de la Justice, Bill Barr, avait tenté jusqu'au bout de le dissuader, expliquant que ce serait là vraiment montrer à toute l'Amérique qu'on s'assoit sur le droit commun. Mais que vous voulez-vous, les amis restent les amis, les lois du milieu restent les lois du milieu, et le magazine de gauche Mother Jones de dresser la liste de tous ceux élus corrompus, alliés politiques et icônes de la droite dure américaine qui ont bénéficié comme Roger Stone de la clémence présidentielle ces dernières années. La liste est longue et elle dévoile au final tout un réseau de loyautés inconditionnelles sur lesquelles Donald Trump compte désormais pour assurer sa réélection dans un peu moins de 4 mois.